Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
Alors, bien, comme vous le savez, le chanteur Bernard Lachance est mort du sida, oui, mais des suites aussi d'une certaine idéologie complotiste, anti-médicaments, anti-vaccins, anti-science. C'est ça aussi qui l'a tué. Nous allons parler avec Régent Thomas, président fondateur de la clinique L'Actuelle, qui avait comme patient Bernard Lachance. Premièrement, Régent, bien sûr, toutes mes condoléances parce que t'étais pas un parent de Bernard, mais t'étais quand même quelqu'un qui le connaissait très bien, qui le suivait beaucoup. J'imagine que tu dois être assez dévasté.
En fait, pas tant que ça.
Non,
Bernard avait écrit une lettre dans les médias, lettre à mon médecin, Régent Thomas, mais j'ai pas été le médecin de Bernard très longtemps.
OK.
Juste pour rétablir les faits, mais évidemment, c'est mon nom qui est sorti sur la place publique. Et c'est quelqu'un, oui, qui effectivement, que j'aimais beaucoup. Plutôt sympathique jusqu'à la fin, peut-être, où la confrontation a commencé. Mais un gars intelligent, un gars bright, mais
qui est tombé tête première là-dedans.
Oui.
Dans les théories du complot.
Oui, c'est assez triste de voir un gars comme ça. Je le voyais hier à la télé. C'est un gars qui avait du talent quand même, qui avait fait des choses. Puis bon, sa carrière n'avait pas marché autant qu'il voulait, mais c'était quand même un gars qui était brillant. Et de se laisser mourir, parce qu'en fait, moi, je n'ai aucune preuve qu'il est mort des suites du sida. C'est sa sœur qui nous a confirmé ça. Ce qui fait du sens avec l'arrêt de la médication, mais de se laisser mourir, comment faut que tu sois absolument, que tu crois à ce que tu défends, en fait, mais jusqu'au point de laisser mourir dans un pays riche comme le Canada, où on a accès à des traitements qui sont plus les mêmes des années 90, là, c'est pas des traitements complexes, c'est des traitements relativement facile, un comprimé par jour, qui guérit pas, évidemment. Ça, c'est la grande tristesse, je dirais, de la plupart de nos malades, parce qu'ils sont encore stigmatisés, mais qui aide à amener une vie, une espérance de vie à presque normale à la moyenne.
Régent, toi qui es un homme de science, tu es un médecin, ouais. Tu crois à la science, est-ce que selon toi, les gens là, qui vendent de la poudre de perlimpinpin, des gens vulnérables en disant que ça va guérir leur cancer ou leur sida ou tout ça, ces gens-là devraient faire l'objet d'accusations, non? Quand même.
Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans les années 80-90, avant l'arrivée de la trithérapie. Avec l'arrivée de la trithérapie, qu'on ait des traitements plus efficaces et mieux tolérés. Mais les années 80, où on n'avait pas de traitement et où les gens allaient mourir, ben, les gens qui entraient dans notre bureau, en moyenne, allaient mourir dans les 6 mois, 2 ans qui s'en venaient. Donc, beaucoup ont été exploités, vraiment exploités. Je me souviens, il y a quelqu'un qui attendait nos patients à l'ascenseur pour lui faire vendre de l'urinothérapie.
Ben, voyons donc.
Oui.
Ben, voyons donc.
Ça, c'est beaucoup arrivé dans les années 80. Là, tu peux croire à... Tu sais, tu as le droit de croire, c'est ta vie, tu peux croire ce que tu veux. Puis moi, si quelqu'un, les gens se font suivre en médecine naturelle, mais qu'il n'y a pas de contre-indication avec les traitements, ils continuent de suivre leur traitement, il n'y a pas d'objection. Mais quand là, on laisse tout tomber, la science, et qu'on embarque, ça n'avait pas l'air clean, les affaires dans lesquelles il s'est embarqué.
Écoute, j'ai un ami qui est mort du sida, là, comme quelques semaines avant le début de la trithérapie. Il l'a raté de très peu, là, tu sais. Il aurait pu être en vie encore aujourd'hui. Et tu sais, ce gars-là aurait, mon Dieu, il aurait tout donné pour pouvoir justement avoir accès à ces médicaments-là. Et là, tu vois, les gens ont, c'est disponible, les médicaments, puis ils disent non. Les bras doivent en tomber, toi.
Ben, c'est que il y a deux choses. À l'époque, dans les années 90, moi, je me souviens, les gens se levaient la nuit là pour prendre leur traitement. C'était des médicaments aux 4 heures. Mais on traitait des gens malades qui avaient espérance, tu comprends, de ne pas mourir et de s'améliorer. Donc, ils toléraient beaucoup de choses, même des effets secondaires. Aujourd'hui, on traite des gens en bonne santé. Parce que la plupart des patients VIH, en bonne santé, entre guillemets, ils n'ont pas de malade, ils n'ont pas de symptômes cliniques, ils n'ont pas de pneumonie, ils n'ont pas rien. Mais ce qu'on fait avec la trithérapie, c'est qu'on empêche la destruction du système immunitaire. Mais sur des gens, donc c'est plus compliqué un petit peu le concept d'adhérence. Cela dit, dans les années 90, à peu près 25% des gens abandonnaient leur traitement à cause des effets secondaires. Aujourd'hui, c'est plutôt rare parce que vraiment le médicament est bien toléré. Mais encore une fois, si c'est pas le seul, hein, dans la chance qui abandonne ses traitements. Il y en a d'autres pour toutes sortes de raisons. Souvent, ils nous reviennent. Après, ils ont abandonné 6 mois, 1 an, 2 ans, puis là, ils nous reviennent avec plus affaiblis, si on peut dire, et on recommence.
Et toi, comment tu vois ça, là, au-delà du cas de Bernard Lachance? Il y avait aussi cette dame de Drummondville, là, la chanteuse western, qu'on disait qu'elle aimait la vie, était drôle, puis à un moment donné, elle est tombée dans le complot anti-vaccin. Elle se levait à 4h du matin, elle passait des heures et des heures devant Internet à lire, à regarder des vidéos complètement débiles. Ouais. Toi, tu vois ça comment? C'est une régression, Christy, là.
Je pense que ça a toujours existé. On a toujours eu des patients, par exemple, le vaccin contre la grippe, qui n'en voulaient pas. Puis bon, on se battait pas avec eux autres parce que c'était la grippe. Après, se respecter leur choix. Ça, on a toujours eu ça. Puis c'est pas tous des complotistes, hein. La plupart des gens qui veulent pas prendre mes patients qui veulent pas prendre le vaccin contre la grippe, ils ont peur des effets secondaires. Ils ont peur de la toxicité. Puis comme la grippe, ben c'est pas si pire, donc ils le prennent pas. Puis il y a des gens qui ont des questions importantes. Par exemple, les personnes VIH ont eu peu de réponses à leurs questions. Est-ce que AstraZeneca serait meilleur? Est-ce que Pfizer est meilleur? C'est quoi un système immunitaire déficient? Moi, j'ai posé ces questions-là, personne m'a répondu. Donc, il y a des gens qui ont des questions pertinentes quand ils sont malades. Puis il y a les gens qui, effectivement, mais il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, ces gens-là viennent pas nous voir ou ils disparaissent parce que nous, on essaye toujours... La confrontation donne pas grand-chose.
Mais c'est ça.
Quand tu seras prêt, tu viendras. Si un jour, tu es prêt pour commencer la trithérapie, tu viendras. Puis ça me fera plaisir de te reprendre. Donc, on essaie de... Puis la science, c'est complexe pour bien du monde. Hein. C'est nous autres... C'est à peu près impossible de comprendre pour nous que quelqu'un se laisse mourir alors qu'il y a des traitements à côté. Là devient une problématique peut-être associée à des problèmes de santé mentale aussi ou d'autres choses parce que c'est très, très difficile. Puis ça a été très difficile, on le voit, pour sa famille qui ont vécu ça toutes les dernières années.
Ben c'est comme si un de tes membres de ta famille tombe dans une secte. Puis la sœur de Bernard Lachance, qui a donné une super entrevue ici à Geneviève Peterson, disait, plus je lui parlais, plus ça le renforçait dans ses croyances. Il n'y avait rien à faire. Il a fallu que je coupe les liens. Il n'y a rien à faire.
Non, il n'y a rien à faire. Mais c'est pas tout le monde qui sont dans ce groupe-là. Je te dirais, il y a un pourcentage, là. Après ça, il y a des gens qui, mettons, dans les anti-vaccins ou autres, il y a des gens que j'appelle qui sont hésitants, OK, puis qui posent de bonnes questions. Mais les gens qui sont anti-pharma, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de discussions à avoir. Écoute, c'est un virus qui attaque le système immunitaire, qui détruit le système immunitaire. Tu vas être malade dans 2-3 ans si tu ne prends pas tes médicaments. Ça rentre pas chez ces gens-là.
Mais tu sais, c'est certain qu'ils vont te sortir l'histoire de la thalidomide où, bon, c'était pour enlever la nausée des femmes enceintes et finalement, il y a plein d'enfants handicapés qui sont venus au monde en disant, regardez, là, les grosses compagnies pharmaceutiques, là, c'est un poison qu'ils ont vendu. Mais c'était dans les années 50, la thalidomide. Là.
Absolument. Puis les vaccins ont changé aussi. La plupart des gens croient encore que quand on donne le vaccin contre la grippe, qu'on leur donne le virus de la grippe. La majorité des gens croient ça, alors qu'ils sont des vaccins atténués. Ce sont souvent, il n'y a même pas de virus. Les PCR, il n'y a pas de virus. C'est un nouveau système, un nouveau mécanisme de vaccination. Mais là, le fait que ça a été découvert si rapidement, là, amène encore une fois une confiance. Mais c'est de comprendre comment la recherche évolue. Aussi, la question qu'on me pose beaucoup, c'est pourquoi on a un vaccin contre la COVID après 9 mois, et alors que le sida existe depuis 40 ans cette année,
ben
on
n'a
toujours pas de vaccin.
Ben oui, ça c'est tout à fait vrai, là.
Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, il y a des gens que ça choque, dirais-je que parce que nous autres, on est moins importants. Mais tous les gens que je vois qui sont impliqués dans la lutte à la COVID, que je vois mes collègues français, Dr. Fauci, c'est tous des gens qui ont travaillé à la lutte au sida. Et la lutte au sida, la recherche du sida a aidé à l'arrivée des vaccins contre la COVID. Et moi, j'ose espérer que peut-être la recherche contre la COVID aidera à arriver un vaccin contre le virus.
On l'espère. Et Réjean, toi, là, tu fais pas rien que donner des pilules et des médicaments. Tu es aussi psychologue. Hein? Tu t'intéresses aussi à ce qui se passe entre les deux oreilles des gens. Et tu le vois, là, dans cette période de pandémie, il y a de la détresse, il y a de l'angoisse, les gens sont vulnérables, donc ils sont fragiles, donc ils sont plus aptes à tomber là-dedans, là, dans ces affaires-là.
Absolument, absolument. Il y a une fragilité sociale. Là, si vous mettez un numéro de stress à la société actuellement, qui est d'à peu près 8, 9 sur 10, là. Tout le monde dans mon bureau, tout le monde est anxieux, détresse, dépression, sauf des gens qui ont consommé de travail. Puis même des gens qui n'étaient pas vulnérables sont vulnérables actuellement. Là. Les gens me le disent. Mmh. Moi, je suis bien, j'ai un télétravail, tout ça. Mais j'en peux plus du télétravail. Moi, je suis avec mon chum, avec ma blonde. Donc, il y a un niveau de stress très, très, très élevé qui amène à toutes sortes de comportements. Et on n'a pas, je trouve qu'on n'a pas bien travaillé, accompagné pendant la pandémie des clientèles, entre autres, plus vulnérables, des gens qui sont suivis pour du cancer, pour des choses comme ça. Le jour où on va tous être vaccinés ne disparaîtra pas. On va avoir des conséquences énormes. Regardez les adolescents. Moi, j'ai une nièce secondaire 5 qui va vraiment pas bien. C'est des périodes très, très difficiles pour les
adolescents. Tout à fait. Ben, Réjean, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci pour le travail que tu accomplis aussi. C'est un travail important.
Je suis en clinique tous les jours.
Réjean Thomas, président fondateur de la clinique L'Actuel. Merci beaucoup. Bonne journée.